de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur ce que certains appellent l'âge sombre du numérique. La menace déjà perspectible, je vais y arriver, que les supports technologiques caduquent, les formats oubliés, la fuite du temps technologique ne nous plonge justement dans l'oubli. Que restera-t-il de nos œuvres d'art contemporaines, de nos données scientifiques, de nos musiques ou de nos photos personnelles dans un futur proche quand on ne pourra plus les lire? L'Alzheimer technologique, tiens, nous guette-t-il? Comment échapper à l'oubli numérique? Comment stocker, archiver le savoir, l'art et la création contemporaine maintenant que la mémoire de l'humanité est convertie en bits? Quelle stratégie adopter face à l'oubli numérique? Voilà l'objet des rencontres organisées la semaine prochaine à l'IRCAM, réplique Art et Sciences, auxquelles participent nos invités, le professeur d'informatique Roberto Di Cosmo de l'ENS et le directeur de la pédagogie à l'IRCAM, Andrew Guerceau, collaborateur du compositeur Pierre Boulez, autour de la question comment échapper au trou noir numérique? Bienvenue. Bonjour Andrew Guerceau.
Bonjour.
Bonjour Roberto Di Cosmo.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous aider à réfléchir à ce trou noir numérique, à cette amnésie collective qui nous guette peut-être. Andrew Guerceau, vous êtes directeur de la pédagogie à l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination musique. Après avoir été directeur technique et responsable de la recherche musicale à l'IRCAM, tout en menant parallèlement une carrière de chercheur et de collaborateur du compositeur Pierre Boulez, vous, quand et comment avez-vous pris conscience de ce trou noir numérique?
La première fois, c'était quand je devrais documenter une œuvre de Pierre Boulez. Donc, j'avais fait une œuvre qui s'appelle Répond, qui était une œuvre pour orchestre électronique. Un deuxième, plus simple, pour clarinette et bande, système spatialisé. Et donc, c'est le deuxième que je devrais éditer pour l'Universal Edition, qui fait l'édition de ces partitions. Et donc, je devrais faire la partie, la notice technique. Et donc, dans ma grande naïveté, j'ai fait la première notice technique en faisant appel aux appareils IRCAMiens. Tout de suite après, j'ai eu des coups de fil en disant bah, c'est très clair ce que vous dites, mais moi j'ai pas cette machine là.
Donc je peux pas le dire, je peux pas le faire.
Et donc je me suis dit que si je voulais être moins dérangé par les coups de fil, que j'avais peut-être besoin de réfléchir un petit peu plus. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit, j'ai pris la décision de documenter les œuvres sans faire appel à une technologie particulière. Donc j'essayais d'extraire le plus d'informations qui sont neutres, exactes, mais qui font pas référence à une technologie
particulière.
Voilà.
Roberto Di Cosmo, vous êtes chercheur en informatique, membre du laboratoire Preuves, Programmes et Systèmes de l'Université Paris Diderot, après avoir été professeur à l'ENS, l'École Normale Supérieure. Vous collaborez aujourd'hui avec l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, sur la question notamment des logiciels libres. Quand et comment, même question, avez-vous pris conscience ou avez-vous été confronté à l'oubli numérique?
Finalement, je dois vous dire que ça arrive très très vite quand vous êtes passionné d'informatique. Moi, j'ai commencé dans la fin des années 70, quand j'ai sorti du lycée. Donc, j'étais déjà confronté aux myriades d'appareils électroniques divers et variés dont tout le monde a perdu la mémoire aujourd'hui, comme les gros lecteurs des disquettes. Alors, à la fois, c'était pas des disquettes, c'était des grosses disquettes. Ça faisait 8 pouces, hein, c'était gigantesque. Bon, j'en avais eu quelques-unes, j'étais pas capable de les lire. Après, j'ai stocké mes propres données sous des disquettes un peu plus petites, et je me suis trouvé très 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 vite confronté à la problématique d'avoir l'impression d'avoir tout sauvegardé, parce que vous avez bien stocké toutes vos données sous vos copies, votre disquette, etc. Vous les mettez dans un beau coffre-fort, ou disons dans une boîte en carton quelque part, dans un endroit tranquille, sec. Et 5 ans après, vous les ressortez, vous essayez de les lire, et pas de chance, la taille de la disquette n'est plus du tout la même, celle de la fente avec laquelle on fait rentrer. Et encore aujourd'hui, j'aimerais bien savoir s'il y a bien quelqu'un qui est capable de lire une disquette des 3 pouces et demi, qui ne sont pas si vieilles que ça, mais c'est vrai que la plupart des ordinateurs d'aujourd'hui n'ont plus du tout les matériels nécessaires pour les relire. Donc si vous avez tout stocké là-dedans, comment allez-vous faire? Et c'est là que, tout début, je me suis rendu compte que la seule solution, ben, il n'y avait pas d'autre chose à faire que copier et recopier tout le temps sous les nouveaux formats qui arrivaient l'un derrière l'autre, ce qui fait énormément de gaspillage des temps et d'énergie, mais c'était la seule solution qui avait l'air de marcher plus ou moins.
Autour de la question comment échapper au trou noir numérique, première piste de réflexion sonore et informatique avec le mix de Guillaume Ploquin qui n'a pas hésité à plonger dans l'espace numérique infini, intersidéral et parfois sidérant.
C'est un très beau sujet, le gavage d'informations, parce que au début, l'informatique apparaît comme la solution au problème du gavage d'informations.
Voici Monsieur Vous et Moi. Monsieur Vous et Moi achète souvent un support vierge pour recopier chez lui du son, de l'image et parfois les deux en même temps.
Le son appartient à la culture, le bruit appartient à la vulgarité, c'est-à-dire ce qui n'est pas maîtrisable et qui n'a jamais été admis dans le domaine culturel.
Quand on commence à regarder les ordres de grandeur de données dont on dispose, on arrive à des chiffres qui sont totalement hallucinants.
The Mystica Space Server provides tools for managing archives and tools for preservation.
C'est bien sympa de savoir qu'il y a une photo où vous êtes qui a été prise à cette dernière fête, mais si vous ne la trouvez pas, vous ne saurez jamais qu'elle existe.
The original work uses keyboard and digital effects in addition to traditional instrumental parts.
Que vous le vouliez ou non, tous les jeux que vous avez achetés en cartouche, vous pourrez plus y jouer d'ici peut-être 1000 ans. Tous les jeux en CD vont s'effacer au bout d'une dizaine d'années.
The main challenge was to reproduce the original sounds in order to assume a certain form of authenticity.
Je pense qu'on va tous s'entendre ici pour dire qu'il va être important de protéger cette culture.
On veut numériser le monde, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de rapprocher cette numérisation de tout avec l'économie de ça.
Donc il y a non seulement une question de comment on cherche l'information là-dedans, mais il y a aussi comment on choisit ce qu'on va garder.
Valérie disait, le gouffre de l'histoire est assez grand pour tout le monde.
Qui veut réagir à ce qu'on vient d'entendre? Le gouffre de l'histoire qui nous attend, nous y voilà déjà ou presque, pas encore, mais presque engloutis dans le trou noir numérique. Roberto Di Cosmo.
Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben la première chose, j'aimerais bien commencer par plutôt les aspects positifs, n'est-ce pas? Donc finalement, on est tous passionnés d'informatique, on trouve les numériques partout, c'est absolument fantastique. Ça nous donne l'impression de reprendre les pouvoirs sur la réalité, parce qu'on peut tout numériser, tout stocker dans des objets qui deviennent de plus en plus virtuels. Donc une fois, c'était les floppy dont on parlait tout à l'heure. Mais
les disquettes,
maintenant.
Les disquettes,
on a même l'impression... C'est du nous facile parce qu'on stocke nos données quelque part, on ne sait pas trop où. Hein, donc ça peut être dans ce qu'on appelle les clouds.
Dans les nuages.
Dans les nuages, comme on dit. Donc on a la sensation qu'il y a quelqu'un qui s'occupe pour nous de garantir la pérennité de ces données d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas?
Espérons.
Sauf qu'on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas avec quelle forme, quelle technologie. Mais l'impact de cette numérisation est impressionnant dans notre société parce qu'on numérise pas seulement les textes, c'est une chose qu'on avait l'habitude de faire, les images, les sons, la vidéo, encore une fois, mais non. Tout le monde pense que c'est faisable. On oublie peut-être qu'on est en train de numériser aussi des objets. On est arrivé à un moment dans lequel vous pouvez avoir des imprimantes 3D, ils sont capables de reprendre la description d'un objet, les refabriquer à l'identique. Et donc, on arrive à numériser de plus en plus des choses. Donc, on a l'impression d'avoir les contrôles sur les réels. Et pourtant, dans ces contrats sur les règles, ils nous échappent de plus en plus vite dès qu'on laisse passer un peu trop de temps.
C'est ça, parce qu'il y a la question de la rapidité autour de la question comment échapper au trou noir numérique. Est-ce que c'est précisément les technologies qui vont tellement vite qu'elles sont obligatoirement dépassées? Ou qu'il faut, vous parler de copie, on peut copier des objets, recopier. Alors qu'est-ce qui est le vrai? La copie? Est-ce qu'il faut sans arrêt copier? C'est des drôles de questions.
Ce sont des drôles de questions. Mais à l'heure d'entrée, première observation, effectivement, si vous regardez les origines, donc un peu de ces trous noirs informatiques, auxquels on est tous plus ou moins confrontés d'une façon ou d'une autre, au moment de la vie, on perd des données, hein, parce que ça arrive tout le temps, souvent. Et d'un côté, il y a des problèmes matériels. Donc il y a des supports matériels auxquels on fait confiance, qui ont une durée de vie qui est limitée.
Donc durée de vie limitée, des CD ou des disquettes, ou des... Durée de vie limitée et puis pouvoir les lire.
Et mais ça, justement, au-delà de la durée de vie limitée des objets, même qu'un objet physique qui contient l'information arrive à durer suffisamment longtemps, encore faut-il être capable de comprendre ce qui est écrit dedans. Parce que finalement, ce qu'on écrit dedans, c'est ensuite des zéros et des ans. Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre quels sont les formats dans lesquels ça a été écrit. Et donc, comment pouvoir les relire? Alors, comment relire des images? Comment relire du son? Comment relire de la vidéo? Comment relire des schémas? Plus les objets qu'on stocke sont complexes, plus l'opération des relectures est compliquée. Donc, il faut savoir comment s'y prendre. Quelles sont les structures de ces formats des données-là? Malheureusement, dans énormément dépend de l'activité humaine, on continue d'utiliser encore aujourd'hui des formats des données qu'on peut appeler propriétaires, disons non ouverts ou fermés,
Que ne peuvent lire que ceux qui ont la bonne machine, la bonne clé, ou qui ont payé ce qu'il fallait.
Disons que pour pouvoir lire ces données-là, il est nécessaire d'utiliser des logiciels qui savent comment les lire, mais on n'a pas la documentation nécessaire pour pouvoir les relire autrement. C'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, même quand j'étais dans mon université intérieure, on avait sauvegardé plein de données dans un support qui était en sorte de vidéodisque merveilleux qui était vendu pour l'entreprise, je ne m'en souviendrai pas, mais qui avait un nom du style Eternity ou Infinity dedans, hein, ça donne l'impression de durer un temps.
C'était bon.
Et qui a fait faillite quelques années plus tard, et bien évidemment, toutes les données qui étaient dedans, elles étaient perdues. Enfin, on ne pouvait plus les relire. Dès que le lecteur est tombé en panne, on ne savait plus quoi faire. Donc la question des formats est vraiment essentielle. Et quand les objets qu'on stocke sont très compliqué. Même avoir la documentation de format, à la limite, n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir les logiciels capables de les traiter. Et souvent, ces logiciels-là, on n'a pas les codes sources. Donc, la seule solution pour arriver à tout préserver, ça serait d'avoir des supports qui ne se dégradent pas, ou alors quand ils se dégradent, il faut recopier sur une nouvelle version. Une documentation très, très, très précise de comment les données sont stockées dedans. Et aussi, les logiciels et la documentation sur ces logiciels qui permettent de lire ces formats-là. Ce qui n'est pas évident, parce que les logiciels aussi tournent sur certaines machines, sur certains ordinateurs qui eux aussi sont périmés. Donc c'est une sorte de fuite en avant. Nous on sait courir très bien en informatique, mais des fois on se demande si les vélos ne nous échappent pas.
On va arriver à courir assez vite. Autour de la question comment échapper au trou noir numérique, on va y revenir dans un instant. Je propose une petite pause musicale. Into the Pixel, c'est le moment, avec Mécanique Quantatique.
RFI, Radio France Internationale.
Et nous voilà Into the Pixel avec Mécanique Quantatique sur RFI autour de la question comment échapper au trou noir numérique. Nos invités sont le professeur d'informatique Roberto Di Cosmo et le directeur de la pédagogie à l'IRCAM, Andrew Guerceau. Tous deux participent aux rencontres organisées par l'IRCAM sur la postérité, le devenir et l'oubli des œuvres numériques, en particulier musicales. Ce qui intéresse particulièrement notre tête chercheuse à RFI, Xavier Gibert, en charge de l'unité de production sur RFI. Écoutez, sa question, elle est pour vous.
Une œuvre musicale se conserve de plusieurs façons. Soit c'est l'objet sonore final, l'enregistrement final qui est conservé et pas les moyens techniques qui ont servi à le faire. Mais j'avais entendu dire que certaines œuvres des débuts de l'informatique musicale avaient été conservées telles quelles, puisqu'elles étaient diffusées sur plusieurs enceintes, par plusieurs ordinateurs, avec des systèmes informatiques différents. Comment est-ce qu'on a pu conserver tous ces objets ?
Andrew Guerceau, vous qui êtes le collaborateur du compositeur Pierre Boulez, vous voulez répondre à Xavier Gibert ?
Peut-être je vais nuancer un petit peu. Donc, je crois que bon, la particularité de la production musicale à l'IRCAM, c'est le music live. Donc, par exemple, si on se met, par exemple, dans un contexte, au contraire, où le produit final, c'est un disque, effectivement, tous les équipements, logiciels et autres qui ont servi à la création de l'œuvre musicale peuvent disparaître.
Peu importe, on aura le disque.
Voilà, on aura le disque. Et après, il sera question uniquement, entre guillemets, de problème de garder ces enregistrements le plus fidèlement possible. Alors, à l'IRCAM, nous avons une culture de ce qu'on appelle les œuvres mixtes. Donc, ça, c'est des œuvres qui incluent des instruments traditionnels.
Acoustiques ou...
Oui, le violon, des flûtes, etc. Qui interagissent avec le système informatique, électronique, temps réel. Parce que ce qui nous semblait très important dans l'apport de l'électronique dans la musique, c'est qu'il fallait qu'on garde un peu le côté vivant, live, de la pratique de la musique traditionnelle. Au début de l'IRCAM, il y avait des œuvres pour instruments et musique sur bande. Ça devenait très contraignant pour le musicien ou pour le chef, etc. C'est un peu comme si vous faites une pièce de théâtre où vous avez un personnage sur une bande vidéo et l'autre en direct.
Sur scène.
Ça devient très étrange très vite. Donc, nous avons créé des logiciels, des machines temps réel pour pouvoir effectuer ce dialogue entre la machine et l'instrumentiste.
Interagir, jouer en direct.
Absolument. Donc, je crois que dans une émission précédente, il y a eu mon collègue Archer Comte qui, par exemple, a développé un système qui permet de synchroniser précisément le jeu instrumental avec la partie électronique. Ça, c'est extrêmement important. Sur le plan musical. Donc là, les choses se compliquent beaucoup.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est du live, donc il faut être là en temps réel.
Voilà. Donc dans la pratique, donc ça veut dire quoi dans la pratique, dans le réel, dans le quotidien. Donc nous avons, on va dire, la partition de référence du compositeur. Ensuite, il y a une partition qui est directement liée au programme informatique qui est utilisé pour jouer l'œuvre. Et donc ces choses-là sont mises à disposition à travers l'IRCAM sur un serveur.
Pour qui veut rejouer.
Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, je veux jouer telle œuvre. J'ai la partition, j'aimerais avoir la partie électronique. La personne contacte l'IRCAM, on lui fournit le programme informatique à jour. Susceptible de jouer la pièce à un instant T.
Mais justement, ce programme-là informatique, il est sur quel support? Il se fait avec quels ordinateurs? Parce que j'imagine qu'il
faut les... Non, c'est pas tellement ni le support, ni le... Bon, effectivement, tout est important. Donc, nous avons créé un langage qui, depuis, est devenu un produit commercial qui s'appelle Max, et toutes nos œuvres sont programmées dans ce langage. Donc ça veut dire que quand on a une œuvre et quand il y a une nouvelle version de Max qui sort, c'est comme tous les autres joueurs de l'informatique, il faut le mettre à jour, il faut vérifier que ça continue à fonctionner, etc. Et donc c'est toute cette mise à jour que nous garantissons pour que les œuvres puissent être jouées. Nous avons une liste d'à peu près à peu près 80 œuvres qui nous sont demandées régulièrement.
Et donc, qui sont mises à jour régulièrement.
Exactement. Et ça demande. Et donc ça, c'est un des premières, on va dire, inconvénients, c'est que c'est beaucoup de travail pour prendre une pièce, le mettre à jour, être sûr que ça fonctionne correctement techniquement, musicalement, etc. Mais je crois que la chose la plus importante là-dedans, il y a un élément qui est extrêmement important dans cette équation-là, c'est l'élément d'engagement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la pérennité des choses, que ce soit la question des formats, stockage, etc., s'il n'y a pas quelque part quelque chose, comment dire, quelqu'un ou un organisme ou je ne sais pas quoi
qui dit je vais assurer la pérennité,
que j'engage à maintenir.
C'est ça, il ne suffit pas de le stocker dans une bibliothèque, il faut que je m'engage perpétuellement à le remettre à jour.
Oui, alors donc par exemple on parle effectivement et sur la question des logiciels libres. Et à un moment donné, par exemple, dans le développement des logiciels de l'IRCAM, on a fait appel à des développements logiciels libres, et on avait un petit problème pratique par rapport à ça. Ça fonctionnait merveilleusement, mais les délais, c'était toujours difficile d'avoir les délais, et les délais, c'est primordial dans la musique.
Compliqué, on continue d'essayer de sauvegarder notre mémoire autour de la question comment échapper au trou noir numérique. On se retrouve dans 3 minutes, si vous le voulez bien, juste après le flash d'info. Restez connectés sur nos ondes, à tout de suite.